Bonjour et bienvenue à tous sur l'émission Grand Large, donc sur la radio Fadjet, donc émission animée par la propédeutique de Nancy. Aujourd'hui, l'émission sera dédiée à Noël, et qui dit Noël dit aussi Avent. Donc voilà, émission dédiée au temps de l'Avent et au temps de Noël. Donc elle expliquera dans une première partie donc le temps de l'Avent, et puis ensuite on expliquera un peu le temps de Noël, comment est-ce qu'on le vit à la propée, sachant qu'on a différentes cultures à la propée. Pour tout de suite nous mettre dans le bain et dans l'ambiance du temps de l'Avent, eh bien je vous propose d'écouter le chant du veilleur de Bach.
Thank you.
Et voilà, de retour sur l'émission Grand Large, donc dédiée au temps de l'Avent et au temps de Noël. Alors, je vais juste faire un petit tour de table de présentation donc des différents propés. Donc, nous avons Raymond.
Bonjour Grégoire et bonjour aux auditeurs de la Radio Fagette.
Nous avons Maxence.
Bonjour.
Nous avons Renaud.
Bonjour.
Et nous avons Rami.
Bonjour.
Et donc, moi, Grégoire. Alors, donc on a eu ce beau choral du Veilleur pour nous introduire un peu ce temps de l'Avent. Maxence, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications sur le mot « Avent » ?
Oui, effectivement, Grégoire, c'est un mot un peu particulier. Quand on y prête attention, on voit que « Avent », dans le temps qui précède Noël, alors effectivement, c'est un temps qui vient avant Noël, mais on peut remarquer que le mot « Avent » comporte la lettre « E » et donc ne fait pas seulement référence à quelque chose qui se passe avant. C'est un mot qui vient en fait de « Adventus », donc un mot latin qui signifie « arriver, advenir ». Et en fait, le temps de l'Avent, pour les chrétiens, c'est tout simplement un temps où chaque chrétien se prépare à la venue, à l'avènement du Christ. Alors, sa venue dans l'histoire, c'est ce que rappelle la fête de Noël il y a 2000 ans, mais aussi sa venue au quotidien dans la vie de ceux qui cherchent à marcher avec lui, et puis aussi sa venue à la fin des temps. Donc une triple attente que vivent les chrétiens pendant ce temps particulier.
Voilà, donc en fait, c'est bel et bien un temps de veille, d'où le choral du Veilleur. On essaye vraiment de se mettre dans cette dynamique de la veille. Est-ce que tu sais depuis combien de temps on fête l'Avent et comment on le fête dans l'Église ou dans différentes cultures
Alors effectivement, le temps de l'Avent est fêté depuis des siècles, à peu près depuis le 5e siècle dans sa forme actuelle. Évidemment, il a connu quelques petites modifications au cours des âges. Mais en fait, il faut bien comprendre que cette attente qui est symbolisée par le temps de l'Avent était déjà celle des premiers chrétiens. En fait, la toute première génération des chrétiens pensait que le Christ allait revenir très vite, encore au 1er siècle, après sa résurrection. Et il s'est avéré que l'attente a duré un peu plus longtemps que ce que les premiers chrétiens pensaient, ce qui a d'ailleurs été une difficulté pour la génération suivante en voyant que le Christ ne revenait pas pas à temps, selon ce que certains auraient imaginé. Et donc c'est voilà un temps qui a été mis en place pour faire mémoire de sa première venue et toujours pour veiller à la venue dans la gloire à la fin des temps. Ce qui fait que très vite, dès le 5e siècle, le temps de l'Avent, d'une manière assez similaire à celle qui est vécue aujourd'hui, a été introduite en France.
Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu comment ça se fait plus concrètement dans la vie de l'Église, par exemple la couleur liturgique, est-ce que c'est comparable au temps du carême où on attend d'une certaine manière un peu la résurrection du Christ, même si le Christ n'est pas mort dès le début du carême?
Oui, alors effectivement, c'est deux temps qui sont à peu près comparables, hein, c'est-à-dire qu'on le célèbre dans la couleur violette qui symbolise la pénitence. Donc c'est un temps où on cherche à se recentrer sur soi-même pour voir quelque part ce qui n'est pas totalement en conformité avec l'Évangile dans nos vies, et pour justement se laisser rencontrer par le Christ, se laisser libérer par lui et aller vers un plus grand amour du prochain, justement, donc à travers cette pénitence, mais avec toujours en ligne de mire la fête qui est celle de Noël, comme c'est le cas avec le Pâques qui vient à la fin du carême.
Ok, merci. Qui dit avant dit forcément différents symboles. On pense tout de suite à la couronne de l'Avent, à la crèche, au sapin, au calendrier. Renaud, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'explications, notamment par exemple sur ces quatre grands symboles, donc tout simplement la couronne?
Alors oui, la couronne de l'Avent, donc telle qu'on la connaît aujourd'hui, apparaît au XVIe siècle en Allemagne. Pour donner quelques symboliques, sa forme ronde nous rappelle la couronne du Christ, roi de l'univers, mais aussi la couronne d'épines qu'il aura sur la tête au moment de sa passion. La couronne de l'Avent, faite de rameaux verts, de sapins, eh bien, nous rappelle ce renouveau, cette espérance que nous attendons de l'avènement du Christ au cours de notre vie et à la fin des temps. Sur cette couronne, on a quatre bougies, qui ont une symbolique toute particulière, puisqu'elle symbolise les quatre dimanches de l'Avent. Et pour développer en quelques lignes, la première bougie donc nous invite à veiller. On l'entend dans l'Évangile, veillez et priez. La deuxième bougie de l'Avent nous fait entendre la voix de Saint Jean-Baptiste qui nous incite à préparer les chemins du Seigneur. Et d'ailleurs, il nous met pas mal la pression d'ailleurs pour nous préparer. La troisième bougie, pour le troisième dimanche de l'Avent, nous appelle à la joie, car le Seigneur est tout proche. D'où la couleur rose dans la liturgie qui change et qui annonce déjà l'aurore et la venue du Messie. Et enfin, donc cette quatrième bougie annonce les événements tout proches de la naissance du Messie.
D'accord. Est-ce que en Irak ou au Togo, vous avez aussi des couronnes? C'est une pratique qui a régulièrement. Je sais qu'en France, ça se fait très régulièrement. Et est-ce que en Irak ou au Togo, ça se fait?
Au Togo, il n'y a pas de couronne de l'Avent.
D'accord.
Parce que c'est beaucoup plus une tradition européenne, je pense, parce que chez moi, il n'y a pas de couronne de temps de l'Avent.
D'accord.
Chez nous, en Irak, il n'y a pas cette tradition.
D'accord. Ok. Aussi. La crèche, Renaud, qu'en est-il ?
La crèche. Alors, de ce que l'on sait de la crèche, eh bien, elle a été inventée au XIIIe siècle, exactement en 1223, donc par un certain Saint François d'Assise, et il est à l'origine de cette première crèche vivante qu'il avait fait et organisée dans une grotte à Greccio, en Italie. On a connaissance, comme ça, des on-dit, d'une crèche en santon, en statue, au VIe siècle, mais on ne sait pas plus. On sait que voilà, il y avait des statues de la Vierge, de Saint Joseph et de l'Enfant Jésus. Mais de plus, on ne sait pas trop. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que au cours des siècles, différentes crèches vont apparaître, et plus particulièrement au XVIe siècle, chez les Jésuites, et en l'occurrence à Prague à ce moment-là. Ce que l'on sait des crèches aussi, c'est qu'à la fin du XIXe siècle vont apparaître d'autres styles de crèches, et notamment les santons de Provence. Un style bien particulier qu'on rencontre sur nos marchés de Noël et qui représente les figurines, des différents métiers traditionnels que l'on pouvait trouver et que l'on trouve encore. Le boucher, le pâtissier, le boulanger, etc., etc. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi avoir fait cela ?
Mais pourquoi, Renaud ?
Eh bien, je vais vous répondre. Tout simplement pour dire que le Messie s'est incarné dans le monde, au milieu de tous les hommes, pour les hommes, alors que personne ne s'y attendait, on sait que il est venu pour tous les hommes.
D'accord. Et donc, effectivement, on voit souvent les crèches provençales qui sont assez détaillées à ce niveau-là.
Oui, tout à fait.
Alors, pour passer de la Provence à l'Alsace, parce que quand même, il y a quelques Alsaciens sur le plateau, donc on va y aller en force. Le sapin, c'est quand même alsacien, Renaud ?
Alors oui, le sapin, c'est alsacien, évidemment. Il est apparu. On sait qu'en 1521, on a connaissance d'un sapin, et particulièrement à Célestat. Donc le sapin, il est symbole de vie. Il est symbole de vie, pourquoi ? Parce que c'est le seul arbre déjà en hiver qui reste vert, donc symbole de vie, présence de la vie et de l'espérance. On sait aussi qu'au cours du Moyen-Âge, il était sur les places publiques et on faisait des pièces de théâtre autour du sapin, et particulièrement en référence au texte de la Genèse, « La création de l'homme ». Le sapin était décoré de pommes, et donc faisant référence à l'arbre défendu, à l'arbre de la vie au jardin d'Éden. Et par la suite, on a adopté le sapin devant la difficulté de trouver justement un pommier durant l'hiver. On a pris ce sapin et on l'a décoré de pommes. Voilà.
D'accord. Ok, alors dernier symbole auquel je pensais, le calendrier de l'Avent. J'avais vu qu'il y avait des calendriers où on pouvait chaque jour ouvrir une case et gagner une bière. Alors est-ce que ça se faisait déjà à l'époque ?
Tout à fait, Grégoire. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout un florilège de calendriers qui existent avec des bières, des sujets en chocolat, etc. En fait, c'est une tradition qui remonte au 19e siècle dans certaines familles protestantes qui avaient coutume d'ouvrir chaque jour une case pour découvrir une parole biblique et essayer de l'appliquer pendant leur journée, en fait, de se mettre comme ça dans les pas du Christ, tout en l'attendant à travers la fête de Noël. Et donc, au cours des décennies qui ont suivi, 20e siècle, et notamment dans les années 50, on a vu l'émergence de calendriers qui étaient plutôt remplis de petites briquettes de chocolat, avec toutes les variantes qui ont été mises au jour dans les dernières années.
Toute une pédagogie pour arriver à Noël, je vois ça. Ok, eh bien donc avec ce premier temps dédié à l'Avent, on va passer à cette deuxième partie consacrée plus à Noël. Et pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter l'Alléluia de Nathalie Dio. Donc c'est un chant arabo-araméen. Et voilà, de nouveau de retour sur l'émission Grand Large, donc dédiée à Noël. Donc nous venons d'entendre l'Alléluia de Natalizio, donc un chant arabo-araméen. Et ça tombe bien, parce que sur le plateau, on a Rami qui nous vient d'Irak. Rami, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on fête Noël en Irak, sachant que comme tu vis déjà en France depuis 7 ans, c'est quoi les principales différences? Est-ce qu'il y a des choses qui finalement ne changent pas ou,
Oui. Oui, effectivement, en fait, en Irak, il y a plusieurs... il y a les chrétiens catholiques, évidemment. Et dans les chrétiens catholiques, il y a plusieurs rites. Alors D'accord. Là, en France, c'est le latin. Et chez nous, il y a l'église chaldéenne catholique et l'église syriaque catholique aussi. Donc, dans chaque église-là, il y a le rite. C'est complètement différent.
C'est différentes langues, du coup?
Oui, c'est l'arabe et avec l'araméen.
D'accord.
C'est une langue liturgique. Et en plus, il y a les chants liturgiques, c'est les concerts de Noël. C'est d'autres styles, c'est d'autres langues totalement différentes. Et en plus, il y a l'église orthodoxe aussi, chez nous. Mais le Noël en Irak, chez les orthodoxes, c'est le 7, normalement, le 7 janvier.
D'accord.
Mais c'est pareil, le concert orthodoxe byzantin, donc c'est d'autres styles.
D'accord, donc vous avez plusieurs styles différents, plusieurs rites. D'accord.
Ça, ouais.
Et sur la journée du 24-25, vous avez pareil une messe le 24 soir, une messe le 25 matin.
Exactement. On a la messe le 24 le soir et le 25 et le 26 aussi.
Ah, et ça, le 26.
Exactement, c'est ça.
Donc c'est aussi une messe de Noël, le 26.
Oui, deuxième. Oui, d'accord. C'est le deuxième jour. Oui, parce qu'en fait, il y a les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas assister à la messe le premier jour. Alors, ils vont assister à la messe le deuxième jour. Parce que chez nous, la majorité sont musulmans. Donc, ce n'est pas des jours fériés pour le 25, normalement.
Aujourd'hui, globalement, en France, et je pense dans le monde occidental, Noël est devenu une fête quand même assez généralisée, où je pense qu'il y a même des gens qui ne sont pas forcément chrétiens qui fêtent Noël.
Oui.
Est-ce que en Irak, il y a des gens qui sont soit pas croyants, soit musulmans, qui fêtent quand même Noël, c'est-à-dire avec un sapin, des cadeaux et, oui.
En fait, les sapins chez nous, ça fait plusieurs années chez nous. Avec la crèche aussi, c'est pareil. Alors, mais ça fait quelques années, il y a beaucoup de musulmans qui font le sapin aussi.
D'accord.
Qui met de sapin, mais sans la crèche, évidemment.
Oui, oui, oui.
Mais pour eux, c'est une fête plutôt culturelle, un peu.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Ouais. C'est vrai, ils croient aussi le prophète, ils disent le prophète Isa, c'est-à-dire le prophète Jésus.
D'accord.
C'est un peu différent chez eux.
Et au Togo, tu nous disais, Raymond, que effectivement il y avait différentes cultures aussi, différentes religions.
Oui.
Comment ça se passe Noël au Togo?
La fête de Noël a une portée universelle. Du coup, l'Église au Togo aussi est en espérance, en attente dans cette festivité. Qui dit festivité dit préparation spirituelle et matérielle. Et nous avons aussi les crèches. Sauf que nous n'avons pas de sapins naturels, ce sont des sapins artificiels qui sont décorés avec les boules lumineuses, les guirlandes électriques ou lumineuses, tout ce qu'il faut pour la fête. Et nous nous mettons aussi dans l'ambiance de la fête.
D'accord. Et il fait quelle température au Togo à Noël?
Il fait moyennement 28-30 degrés.
Ah oui, donc oui, d'accord. Et alors, est-ce que en Alsace, quand on fête Noël, il fait froid, régulièrement il y a de la neige, donc il y a cette ambiance un peu hivernale qui s'installe pour ces fêtes de Noël. Est-ce que ça se ressent aussi en Irak? Est-ce qu'au Togo aussi, il y a, je sais pas, une espèce de transposition de cet effet un peu hivernal ou
Je sais que dans la soirée, la majorité va à la plage pour se rafraîchir, tout ça, au bord de la mer. Et les enfants qui s'amusent dans le sable, tout ça. Et c'est ça l'ambiance.
Oui, d'accord. Parce que je voyais des images, par exemple, en Australie, où on voit des surfeurs avec un bonnet de Noël. Est-ce que vous avez aussi un bonnet de Noël sur la plage?
Ah oui, il y a des bonnets de Noël. Évidemment, il y a des bonnets de Noël. Et je me rappelle que souvent dans la soirée, il y a des gens qui se masquent comme le Père Noël pour venir distribuer des cadeaux aux enfants.
Et en Irak, il fait quelle température?
En fait, il fait à peu près 15 degrés. Donc, il n'y a pas de neige. Ah mais oui. Il fait beau.
Rami, quel est ton plus beau souvenir de Noël?
Alors, je me souviens très bien, quand j'étais petit, je tendais le cadeau de Noël avec patience. Et j'arrive même pas à dormir pendant 2-3 heures.
Ah oui, donc c'est synonyme de nuit blanche, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement.
D'accord. D'accord.
Ouais, ça reste des bons souvenirs. Voilà.
Oui. Raymond, je repensais à quelque chose au Togo. Tu nous avais parlé d'un partage fraternel entre les différentes religions au Togo. Est-ce que tu peux un peu plus détailler?
Exactement. Lors des festivités, il y a un partage fraternel parce que les familles ne peuvent pas fêter seules et il y a ce partage entre les différentes religions, les musulmans et les chrétiens. Malgré tout ce qui nous divise ou les différences, ils acceptent nos partages et avec joie et convivialité. Voilà le partage qui se fait chez nous.
Oui, donc c'est un beau message de Noël quand même, oui. ce qui se passe au Togo. Oui. Maxence, ton plus beau souvenir de Noël ?
Il est assez récent finalement, c'était l'année où j'avais commencé à travailler, fin 2013. J'avais dû débarquer en catastrophe à Paris, un peu vraiment, vraiment dans l'urgence. Et le fait de retourner juste pour Noël en famille, dans la fête, c'était vraiment pour moi voilà, un petit peu l'îlot de lumière au milieu d'un temps assez difficile d'adaptation.
D'accord. Renaud ?
Alors moi c'est au sortir d'une période un peu difficile, et eh bien j'ai un très beau souvenir. C'était une messe de Noël, grande messe solennelle, grandes orgues, chants magnifiques, et en sortant de la messe de minuit, donc il était une heure et quart du matin, et il y avait une tempête de neige. C'était extraordinaire, quoi.
D'accord. Noël. Bah oui, un Noël sans neige en France, enfin dans l'est de la France, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, il est temps pour nous de nous quitter. On en profite pour vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Et donc on va terminer l'émission donc sur la chanson donc ultra connue Adeste Fideles, donc version de Wilcox.